Nous pourrions nous intéresser au livre de Daniel parce qu'il est dans son ensemble un message tellement percutant. Pour notre génération et tellement d'actualité. Nous vivons des temps excessivement sérieux, surtout en Europe, mais dans le monde tout entier, lequel semble vaciller, et littéralement, et puis chacun s'autorise à penser que nous sommes en train de connaître les douleurs de l'enfantement d'un nouvel ordre mondial, au plan économique, au plan politique, au plan religieux. Voilà pourquoi j'ai pensé à Daniel, avec ce thème que vous savez, Daniel prophète pour notre temps. Évidemment, il aurait fallu lire le livre de Daniel dans son entier pour pouvoir le saisir. Et combien déjà l'avez-vous étudié, ce livre? Vous l'avez à l'esprit? Non. Bon, on essaiera de se tenir près des textes le plus souvent pour ne pas, disons, parler comme cela un peu en l'air de ce livre sans avoir des points de repère précis, autant que faire se peut. J'ai demandé à notre ami de vous lire le chapitre 2 parce que c'est ce chapitre qui va nous intéresser, mais avant d'entrer de plein pied dans ce chapitre 2, nous allons passer en revue quelques préliminaires concernant ce livre. À propos des préliminaires, nous pourrions commencer par dire ce qui suit. Le prophète Daniel a été choisi par Dieu pour traiter d'une période très précise que le Christ, bien après lui, a qualifié de temps des nations. En Luc 21-24, est-ce que vous avez ce verset à l'esprit, où Jésus a dit ce qui suit: Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, la suite, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, ce temps des nations a commencé avec la déportation de Judas en Babylonie, c'est-à-dire du temps du roi Joachim, roi donc de Judas, c'est-à-dire vers l'an 605 avant Jésus-Christ. C'est donc à cette période, dans cette année-là, qu'a commencé ce que Jésus a appelé le temps des nations. Nous allons tout à l'heure expliquer de quoi il s'agit. Et ce temps des nations doit se poursuivre jusqu'à quand? Voilà, jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais jusqu'à son retour en gloire. Non pas jusqu'à l'enlèvement d'Église, que nous attendons avec impatience, mais jusqu'à son retour en gloire. Ceci signifiant quoi? Eh bien que nous vivons alors qu'il est encore le temps des nations. Et pourquoi cette expression « le temps des nations » ? Elle correspond au temps pendant lequel le pouvoir, tout pouvoir, a été ôté, j'allais dire, du peuple d'Israël pour être confié à d'autres nations, à d'autres empires, à d'autres gouvernements. Et ces empires, en particulier ces quatre empires dont il a été question tout à l'heure à propos de la statue du chapitre 2, représentent ce temps des nations. C'est à eux que ce pouvoir qui était précédemment dans les mains d'Israël a été confié, le temps des nations. En d'autres termes, il correspond au temps où les païens auront le pouvoir le pouvoir à la place d'Israël. Parce qu'on se pose souvent la question, quel a été le dessein de Dieu vis-à-vis d'Israël à l'origine ? Pour ne pas que nous nous fourvoyions, nous en appelons aux Saintes Écritures qui l'ont précisé de façon tellement claire depuis tellement de temps. Quel était le dessein de Dieu vis-à-vis d'Israël après l'avoir libéré du pays d'Égypte pour le conduire jusqu'en Canaan sous la conduite de Moïse? Nous lisons quelques textes au livre du Deutéronome au chapitre 28 à partir du verset 1er. Souvent ceci échappe aux chrétiens eux-mêmes. Oh, il est tellement important dans nos temps de retrouver, j'allais dire, la prophétie d'une façon générale. Parce que tant de choses annoncées depuis tellement longtemps se réalisent sous nos yeux de façon époustouflante, de façon étonnante, à nous en émerveiller littéralement. Le dessein de Dieu à l'origine vis-à-vis d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que c'est un texte qui nous a peut-être échappé, mais tel était le dessein de Dieu à l'origine vis-à-vis de son peuple, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Or, Israël n'a pas eu cette supériorité sur toutes les nations de la terre. Parce qu'Israël a désobéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. Voilà pourquoi le pouvoir lui a été ôté pour être confié à d'autres nations, et en particulier à 4 empires, en commençant avec celui de Babylone, puis celui des Mèdes et des Perses, puis celui de la Grèce, et enfin celui de Rome. Mais cette supériorité sur toutes les nations de la terre, Israël la retrouvera. Quand ? Au retour de Christ. Au retour en gloire de Jésus-Christ, lorsque le Christ viendra pour régner sur toutes les nations de la terre. Alors Israël sera réintégré dans ses prérogatives, j'allais dire anciennes, surtout à partir du moment où il se convertira à Jésus-Christ. Selon une prophétie du prophète Zacharie, n'est-ce pas, tellement claire à cet égard. Nous gardons quand même un doigt dans ce livre du Deutéronome, toujours, que j'ai perdu, je retrouve au chapitre 28. Nous lisons encore quelques versets un peu plus loin. Nous lisons, par exemple, au verset 36. Alors, au verset 36... nous pouvons être stupéfaits de voir que Dieu, par Moïse, quelques 1000 ans avant Daniel, 1000 ans, Moïse a vécu environ 1000 ans avant Daniel. Comment ce Moïse a-t-il pu annoncer les temps de Daniel en ces termes ? Si tu désobéis, bien entendu, à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie et parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Il est curieux qu'il soit question là de déportation. De déportation 1000 ans avant précisément celle qu'a connue Daniel. Et non seulement Moïse avait annoncé ces temps-là. Tenez, un autre texte encore, au verset 41, précise ces choses. Nous pourrions lire encore le verset 41. À propos de déportation, de captivité, si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Mais que c'est étonnant. Alors, beaucoup, bien entendu, mettent en doute, comme vous le savez, certains écrits de la parole de Dieu, prétextant qu'ils ont été ajoutés après coup, parce qu'on ne pouvait pas annoncée aussi longtemps à l'avance, des prédictions aussi précises. Pourtant, là, tu auras des fils, des filles, n'est-ce pas? Ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Et puis encore, Esaïe, par exemple, a annoncé, semble-t-il, avec plus de précision, j'allais dire, Daniel, ses compagnons, en Esaïe 39, verset 5. Esaïe 39, verset 5. Alors, pendant ces études, il est bon que vous veniez avec vos Bibles et que vous cherchiez, que nous cherchions ensemble, parce que c'est la Bible qui va nous intéresser et nous voulons réellement nous situer sur ce fondement pendant tout le temps de nos trois études. Donc, Esaïe, disais-je, 39, verset 5. Oui, c'était à propos d'une faute qu'avait commise Ézéchias vis-à-vis de Babyloniens. Alors Esaïe l'avait visité, Ézéchias, pour lui dire ce qui suit. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Mais c'est très exactement ce qui s'est opéré lors de la déportation de Juda avec Daniel et ses compagnons, qui étaient issus de race royale, comme vous le savez, ceci est précisé au chapitre 1er de Daniel, et qui avaient servi au palais du roi Nebuchadnezzar comme serviteur. Quelle précision dans ces prophéties. Or, quand nous savons que Esaïe a prophétisé cela environ un siècle avant Daniel, c'est encore époustouflant, littéralement. Nous savons que Esaïe a été un prophète remarquable. Il avait même avancé le nom de Cyrus. Le nom de Cyrus tellement de temps avant même la naissance de Cyrus. Alors que je traitais à peu près cette question un jour, il y avait eu un prêtre dans la salle qui était venu vers moi pour me dire « Je ne comprends pas, vous croyez que réellement il n'y a pas eu plusieurs Esaïe ? Comment se fait-il qu'il ait annoncé au chapitre 45 de son livre qu'un roi Cyrus viendrait en faveur d'Israël ? Est-ce que vous croyez qu'Esaïe aurait pu comme cela inventer un tel nom tellement longtemps avant l'avènement de Cyrus, avant même sa naissance ? Alors je dis, mais je crois en l'inspiration des Écritures et dans ce grand Dieu qui révèle les secrets, justement, nous allons voir tout à l'heure, et qui peut annoncer les choses tellement à l'avance, hein, avant qu'elles ne se réalisent. Évidemment, ceux qui refusent de croire dans le miracle de l'inspiration en réfèrent à tout ce que vous voulez comme explication pour tenter de se tirer d'affaire, mais pour ce qui nous concerne, nous croyons réellement la parole de Dieu inspiré, oracle de Dieu de son début à son terme, parfaitement inspiré, cette parole absolument sans erreur dans ses originaux, bien entendu, cette parole de Dieu qui est réellement notre autorité et notre seule autorité en matière de foi, de vie chrétienne, en matière de vie de façon générale également. Alors, pour commencer, disons que les temps de Daniel avaient été annoncés par des prophètes que l'Éternel avait suscités bien avant les temps de Daniel. Et c'est là encore une affaire qui très souvent échappe aux chrétiens eux-mêmes, mais qui n'a pas échappé à certains théologiens. libéraux qui ont tenté de détruire non seulement Daniel, mais aussi Ésaïe et d'autres prophètes. Alors, voilà donc de quoi traite le livre de Daniel. Du temps des nations. Gardons cela à l'esprit jusqu'à notre dernière rencontre. Si nous perdons de vue cela, nous risquons de nous égarer. Il traite de ce temps des nations qui a débuté avec la déportation, donc, sous Joachim, roi de Juda, en l'an 605 avant Jésus-Christ, jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour son règne sur la terre. C'est un premier point. Mais il ne traite pas uniquement de ce point-là. Il traite de points particuliers se situant dans cette période. Il traite d'Antichrist apparaître. Et je dirais que le livre de Daniel, qui a vocation de traiter du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, ça c'est la figure majeure, la figure clé, hein, Daniel 7 par exemple, hein, ce fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, n'est-ce pas ? Ce livre a aussi vocation de traiter de certains antichrist, et surtout de l'antichrist final. De l'antichrist final qui sera arrêté dans sa vie comme sur la terre, comme dans ses actions par le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors gardez cela en vue. Daniel n'a pas cessé de viser l'antichrist pour le dénoncer, le faire connaître et surtout de le révéler dans ce qu'il sera au niveau de son tempérament, de sa mentalité et de tous ses pouvoirs. C'est fou ce que Daniel peut révéler à propos de l'antichrist final et en traitant, j'allais dire, d'autres antéchrists, parce que l'apôtre Jean vous fait savoir qu'il y a eu plusieurs antéchrists, qu'il y en aura encore, n'est-ce pas ? Et que pour finir, tous ces antéchrists trouveront leur incarnation, je ne parle pas de réincarnation, mais de leur incarnation dans l'antéchrist final que viendra détruire le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ceci aussi, gardons-le à l'esprit pendant toutes nos études, si nous voulons que justement ces études sur Daniel nous soient bien profitables. Et puis, un autre point que nous révèle, et non des moindres, que nous révèle le prophète Daniel, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Et il est même le Seigneur de l'histoire. Le Seigneur incontesté de l'histoire, même si les hommes pense qu'ils mènent l'histoire, j'allais dire, par leur puissance et par leur pouvoir, ils dépendent de Dieu. Et là, nous aurions plusieurs textes à lire. Par exemple, déjà en Daniel 1-2, vous cherchez avec moi, comme je vous l'ai dit, nous allons fouiller nos Bibles. Nous lisons en Daniel, donc, disais-je, chapitre 1, verset 2. Alors, nous pourrions lire à partir du verset premier, ceci nous situera dans ce contexte historique rappelé tout à l'heure, comme cela de mémoire, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Nous lisons bien cela. Le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Vous les souillez, hein ? Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu, et nous savons qu'un jour, Belshazzar, chapitre 5, avait osé se servir de ses instruments que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple même de l'Éternel à Jérusalem pour festoyer au cours d'une orgie. Et c'est dans cette occasion-là qu'il avait vu cette inscription, une main qui avait écrit, pesé, léger, ne faisant pas le poids, etc. Avec les prophéties et qui en était résulté. Alors, il est écrit ce qui suit, verset 2, « Le Seigneur le livra, il est le maître de l'histoire. » Ça n'est pas parce que Nebuchadnezzar avait une armée plus puissante que celle de Juda qu'il avait remporté la victoire. C'est le Seigneur qui avait permis, parce qu'il avait annoncé ces choses, bien à l'avance, le Seigneur avait permis cette captivité de Juda en Babylonie. Il est arrivé moult fois dans les Saintes Écritures qu'une petite armée en Israël avait pu battre de grandes armées ennemies. Ceci, certainement, est dans votre esprit. Et nous avons l'histoire, d'ailleurs, nous allons le voir ensemble, à propos d'Alexandre le Grand, lorsqu'il s'en était pris aux Perses, avait une toute petite armée comparée, par exemple, à l'armée des Perses, des Mèdes et des Perses, qui avait été pendant longtemps une très puissante armée, et qui avait été littéralement écrasée par celle d'Alexandre le Grand, qui avait eu une toute petite armée à sa disposition, mais tellement motivée que les Perses n'avaient pas pu tenir devant lui. Alors, ce n'est pas parce qu'on dispose d'une armée puissante et grande qu'on est assuré de la victoire. En fait, c'est Dieu qui mène l'histoire et qui la conduit de façon incontestable, puisque pour ce qui nous concerne en tout cas, ces choses avaient été annoncées tellement de temps avant qu'elles ne se réalisent. Alors Dieu est donc le maître de l'histoire, c'est lui qui conduit l'histoire. Et puis il est dit aussi, par exemple, à propos de Nebuchadnezzar, quelque chose qui pourrait nous surprendre, au chapitre 2, au verset 28, ce qui suit, il y a dans les cieux, c'est Daniel qui s'adresse donc à Nebuchadnezzar, parce que Dieu lui avait révélé l'explication du songe de la statue, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui peut être étrange et étonnant? Vous encaissez ça sans réagir? Bon, il est bien dit que Dieu a fait connaître à Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc Dieu connaît la suite des temps, c'est-à-dire qu'il connaît l'évolution de l'histoire et c'est lui qui mène les choses, même si apparemment les hommes pensent que ce sont eux qui mènent les choses. Mais rien ne vous étonne là? Que Dieu ait révélé à un païen? On dit très souvent Dieu ne révèle rien aux païens. Vous croyez ça? Vous savez, quand le général de Gaulle avait parlé de l'Atlantique à l'Oural, hein, on n'avait pas accepté cette idée. On l'avait à la limite pris pour fou. Mais quand nous pensons à ce que nous vivons, à ce que Gorbatchev n'a cessé de demander avant son élimination, de faire partie de la maison commune de l'Europe, hein, de l'Atlantique à l'Oural. Vous savez, le Seigneur est souverain et il accorde des révélations à qui il veut. C'est vrai dans la Bible et c'est vrai hors la Bible. Il nous faut bien entendu faire très attention et on peut s'étonner que Dieu n'ait pas révélé cela pour commencer à Daniel, qui aurait été beaucoup plus apte à saisir une telle prophétie qu'un roi païen. Mais ceci prouve que Dieu reste souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Ensuite, il a révélé donc à Daniel l'explication de cette statue, lequel était allé vers Nebuchadnezzar pour la lui expliquer. Il reste néanmoins que Dieu avait fait à ce roi des révélations fabuleuses. C'est à Nebuchadnezzar qu'il a révélé le temps des nations. parce que le temps des nations commençait avec ce roi. Pour se terminer, au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous serions en droit de dire, mais Seigneur, tu aurais dû révéler une telle vision, non pas à un païen, mais à un enfant de Dieu, à un prophète. Eh bien non, le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Il reste néanmoins que le roi serait resté très perplexe si Daniel n'était pas intervenu avec l'explication que vous avez. Donc en fait, Daniel a joué un très grand rôle dans la compréhension de cette révélation, de la révélation de cette statue pour le roi Nebuchadnezzar. Et puis encore, à propos toujours des préliminaires, la Bible nous fait savoir que, toujours de ce point-là, concernant Dieu, le Dieu qui est maître de l'histoire, la Bible nous révèle des choses remarquables quant à notre Dieu, à propos de prédictions, jusqu'à la fin. En Ésaïe 42, pour ceux qui prennent des notes, n'est-ce pas ? Nous n'aurons pas le temps de passer en revue ces textes tellement importants. Ésaïe 42, les versets 8 et 9, n'est-ce pas ? Qui disent que seul réellement Dieu prédit des choses qui soient justes et qui se réalisent. Ésaïe 46, versets 8 à 10. Ésaïe 45, versets 21 à 23. Je suis obligé de passer vite, hein, sinon nous n'arriverons jamais au bout de notre étude. Ésaïe 43, versets 9 à 13. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est qu'il soit dit en Jérémie 10, verset 7, que bien que des nations rejettent l'Éternel, n'en veuillent pas pour leur Dieu, n'est-ce pas ? Dieu reste le roi des nations. Vous savez que Dieu est le roi de la France, hein ? Heureusement. Et nous devons l'en bénir. Hein ? Voilà pourquoi il nous demande de prier pour nos autorités. François Mitterrand ne sait pas qu'il est là parce que Dieu l'a voulu. Il faudrait peut-être le lui révéler. Mais enfin, il reste néanmoins que Dieu a conduit les choses pour notre pays. La Bible dit qu'il n'est pas d'autorité en place qui ne soit voulue de Dieu. Et que nous devons être de bons citoyens soumis à nos autorités jusqu'au moment où ces autorités ne s'opposent pas à Dieu, à sa parole, à son message, à Christ. À ce moment-là, évidemment, il nous est demandé de ne pas obéir, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais jusqu'au moment où nos autorités nous accordent toute liberté, en tout cas celle dont nous pouvons jouir dans notre pays par grâce, alors oui, nous sommes tellement heureux de ce que nous pouvons exercer notre foi librement, notre culte librement, de ce que nous pouvons prêcher l'Évangile librement, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde au travers d'un gouvernement socialiste. Et il pourrait nous l'accorder, il l'a déjà accordé, par le biais d'un gouvernement de droite, etc. Bien que ce gouvernement ait ignoré qu'ils aient été mis en place par la volonté de Dieu. Alors, Dieu reste le roi des nations. Mais ce que Dieu avait souhaité à l'origine par Israël, c'était d'être, j'allais dire, le maître de l'histoire de façon directe. En commandant, en orientant, en gouvernant par le biais de ce peuple. Je crois avoir traité de cette affaire il y a peut-être un an ici. Par le choix justement de ce peuple, par le choix, j'allais dire, du pays d'Israël lui-même, et qui est appelé dans les Saintes Écritures le pays de Dieu. Le pays d'Israël, ça n'est même pas le pays du peuple d'Israël, c'est le pays de Dieu. Et nous souvenons de cette parole au livre de Lévitique, de l'Éternel à Israël, en ces termes, n'est-ce pas ? Vous êtes ici, sur cette terre, chez moi. Vous êtes là comme étranger. C'est moi le propriétaire du pays d'Israël, n'est-ce pas ? Alors, c'est quand même remarquable ce que Dieu avait voulu à l'origine un pays au centre des continents, avec un peuple se situant au centre des continents, au carrefour des continents, passage obligé pendant des générations. Hein. Vous voyez la carte. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte du Moyen-Orient pendant ces temps-là? J'ai oublié de demander ça, je ne sais pas si c'est possible. Sinon, on peut suivre. Mais enfin, vous avez des cartes au terme là, de vos Bibles. Et à partir de là, Israël devait rayonner sa foi, son message, son témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et Israël a complètement manqué à sa vocation première. Mais il la retrouvera, cette vocation, ce ministère au retour en gloire du Seigneur Jésus, en particulier dans le millénium. Alors, gardons donc à l'esprit ces choses, elles sont importantes. Dieu reste le roi des nations. Mais pour le temps présent, de façon indirecte, j'allais dire. Parce que les nations ignorent que c'est Dieu qui mène les choses. Et elles ne dépendent pas directement de Dieu, bien que ce soit Dieu qui les mène. Mais un jour, à partir justement de son trône, qu'il situera à Jérusalem, le Christ, parce que descendant de David, n'est-ce pas, règnera sur toute la terre par son peuple, celui d'Israël, qui sera le peuple missionnaire au cours du millénium pour porter justement le message de Christ jusqu'aux extrémités du monde. Alors, à ce moment-là, il retrouvera, j'allais dire, un règne, un gouvernement direct sur les nations, tandis que pendant le temps des nations, son règne est pour ainsi dire se réalise de façon indirecte, par le biais de nations qui n'ont pas leur confiance en lui. Et puis, encore autre chose, en acte 17:10, il est précisé que c'est Dieu qui a donné à chaque pays ses frontières. Alors, parfois, les frontières ont été tracées de façon, j'allais dire, sanglante, meurtrière, au travers de guerres, qui ont été très pénibles pour les peuples. Il reste néanmoins que ce que Dieu affirme par la bouche de l'apôtre Paul en acte 17, nous allons peut-être prendre ce verset. J'ai dit donc acte 17 combien ? 17. Non, c'est pas acte 17, 10. C'est acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, Adam et Ève, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les limites de leur demeure. Donc, si notre pays se présente sous la forme d'un hexagone, ce n'est pas parce que, j'allais dire, dans le passé, en France, des hommes l'ont voulu. Ainsi, c'est parce que Dieu avait décidé que la France se présenterait de cette façon-là. Que la Suisse également serait un petit pays, la Belgique également, que la Russie, les États-Unis seraient de grands pays. C'est Dieu qui a déterminé les limites des nations. Et un autre texte au livre du Deutéronome nous fait savoir que c'est en fonction d'Israël que Dieu a pu déterminer toutes ces choses. Ceci peut rester mystérieux. Ce sera une question de plus que nous aurons à lui poser un jour lorsque nous serons introduits dans son siècle, dans son ciel de gloire. Mais il faut aussi dire ce qui suit. Dans ce livre de Daniel, il y a énormément de prophéties, comme vous le savez. Des prophéties ambiguës, ça veut dire quoi? Des prophéties qui devaient se réaliser à moyen terme, mais qui doivent encore se réaliser à partir de même texte. Et ceci est très souvent rencontré dans les prophéties d'une façon générale, au plan biblique. Par exemple, Daniel a abondamment parlé d'Antiochus Épiphane. Je prends l'exemple. Mais au travers d'Antiochus Épiphane, quelque chose d'inouï, les précisions à propos de la période des Maccabées, etc. Quelque chose d'absolument inouï, de précision. Mais au travers d'Antiochus Épiphane et de temps des Maccabées, Daniel a aussi annoncé l'Antichrist final qui n'a pas encore paru, en même temps que la grande persécution et la tribulation de Jacob qui ne s'est pas encore réalisée. Voilà pourquoi je parle d'ambiguïté. Dans un premier temps, si vous voulez, c'est le cliché qui est là directement sur le projecteur, et puis sur l'écran, c'est la fin des temps. Voilà pourquoi je parlais d'ambiguïté, c'est-à-dire de choses qui s'amplifient au cours de l'histoire et qui aboutissent sur les temps de la fin pour la réalisation, pour leur réalisation complète à propos de ces prophéties. Il faut toujours garder ces choses à l'esprit. Par exemple, quand nous regardons vers une chaîne de montagnes, j'étais en Suisse il y a peu de temps, j'ai pu admirer la chaîne du Mont Blanc hier après-midi, depuis la Chaux-de-Fonds. Une chaîne absolument splendide. Alors on voit une chaîne de montagnes, on a l'impression que les pics sont alignés comme ça, qu'ils se situent sur un même plan, mais ce qui est tout à fait faux. Il y a entre ces pics d'immenses vallées, de grandes vallées qui passent inaperçues, parce que justement, à partir du lieu où on les considère, il n'est pas possible d'envisager ces vallées entre ces cimes. Entre ces pics, ainsi en est-il de la prophétie, une série de cimes, mais entrecoupées de vallées, entre Antiochus Épiphane, par exemple, qui a été une figure de l'Antéchrist, nous allons le voir, et puis l'Antéchrist final, il y a quand même pas mal de siècles, et qu'elle représente ce type de vallées qui peut passer inaperçu à la lecture comme cela de Daniel. Une première lecture de Daniel, et même à la limite, ceci peut représenter, disons, quelque chose d'assez confus, mais qui devient tellement clair quand on creuse la question et lorsqu'on garde à l'esprit ce que je viens de dire. Il faut aussi, quand on aborde ce livre de Daniel, savoir que c'est un des livres qui a été le plus attaqué par le libéralisme. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais comme ça, très vite en passant. Il a été attaqué parce que on n'a pas voulu croire que Daniel ait pu annoncer l'avenir en même temps que l'histoire. Vous savez, pour beaucoup de nos théologiens libéraux, Daniel n'a été... Enfin, il y a eu plusieurs Daniel. En fait, on s'est trompé, pour finir... C'est plusieurs Daniels se sont retrouvés dans un seul Daniel, un seul livre de Daniel, pour ceux qui ont étudié la question, parce que ce livre a été écrit en partie en hébreu, en partie en araméen, parce que ce livre a annoncé dans un détail qui force l'admiration des prédictions qui se sont réalisées, par exemple, dans les Maccabées, Daniel 11, de façon tellement... J'allais dire juste que beaucoup ont refusé de croire qu'on pouvait annoncer des choses aussi précises tellement de temps avant qu'elles ne se réalisent. Et des théologiens souvent qui se sont dit chrétiens. Alors par exemple, toujours dans les préliminaires à propos de ce livre, je le disais, attaqué parce que trop précis dans le détail. S'il n'y a eu qu'un Daniel, il n'était pas possible, à l'esprit de certains, aux yeux de certains, qu'il ait pu annoncer avec force détail des événements comme celui d'Alexandre le Grand, par exemple. Alexandre le Grand, qui a été imagé par ce bouc au chapitre 8 de Daniel pour s'en prendre au bélier avec ses deux cornes pour le détruire. Évidemment, c'est tellement remarquable de précision que si on ne croit pas dans le miracle de Dieu, dans l'inspiration plénière, totale, entière des Saintes Écritures, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, un certain Porphyre, néo-platonicien malheureusement, avait justement mis en question l'inspiration de ce livre. Pourquoi ? Parce qu'il avait découvert, s'il devait accepter tel que le livre de Daniel, il avait découvert que Daniel, ce livre-là, le chapitre 11 seulement, des versets 1 à 36, avait vu sa réalisation au niveau de 150 prophéties. Imaginez que dans le seul chapitre 11 de Daniel, hein, 150 prophéties qu'il avait annoncées se sont réalisées dans les années qui ont suivi Daniel. Et que Daniel avait annoncé avant même que Alexandre le Grand, ni Antiochus Épiphane, ni des gens comme ça, aient vu le jour. Et Porphyre a dit, mais ça n'est pas possible que Daniel ait pu annoncer comme ça des empires avec une telle précision. Il y a eu plusieurs Daniels. Et il y a eu certainement un Daniel du temps des Maccabées qui a joué aux historiens pour raconter ce qui s'était passé du temps des Maccabées. Il est important quand même de jeter un œil sur ce qu'il est convenu d'appeler les apocryphes. Qui a lu les apocryphes ? Bon, ce ne sont pas des livres inspirés. Levez la main pour voir. Ce ne sont pas des livres inspirés, hein, mais ce sont des livres historiques remarquables. Alors, lisez donc, par exemple, les livres des Maccabées, et vous verrez ce que Daniel a annoncé, qui s'est réalisé dans un détail, mais fou de précision. Voilà pourquoi on a eu tant de peine à accuser, à accepter ce que Daniel a annoncé. Alors, on a dit, un autre Daniel a vécu du temps des Maccabées. Il a vécu ses grandes persécutions, il a vécu le règne d'Antiochus Épiphane, lequel a été une figure pour eux, évidemment, de l'Antéchrist. Et une fois toutes ces choses réalisées, il s'était mis à écrire, et puis on a ajouté ses écrits à ceux de Daniel. Voilà comment les choses s'étaient passées. Bien non, absolument pas. Et bien heureusement, il n'y eut qu'un seul Daniel. Alors, le gros argument, là, l'argument massue, pourquoi le livre de Daniel n'a-t-il pas été écrit uniquement en hébreu ? Pourquoi a-t-il été écrit en partie en araméen ? Alors il faut savoir que du chapitre 2 au chapitre 7 du livre de Daniel, c'est la langue araméenne qui a été employée. Mais parce qu'on ignore souvent que, du temps des Perses surtout, l'araméen était la langue internationale du Moyen-Orient. Et qu'on parlait cette langue depuis les Indes jusqu'en Éthiopie. Et qu'en fait, partout dans ces territoires du Proche et du Moyen-Orient, c'était l'araméen qui était la langue officielle, en même temps que la langue internationale. Et puis, pourquoi du chapitre 2 au chapitre 7 ? Parce que dans ces textes-là, Dieu, par Daniel, s'adressait aux nations. Ceci est merveilleux. Aux nations qui parlaient justement l'araméen en ce temps-là, afin qu'un message leur soit porté à partir du livre de Daniel. Ceci aussi échappe très souvent aux chrétiens eux-mêmes. Alors, on comprend tout à fait que Dieu ait voulu que certains chapitres soient écrits en araméen, parce qu'ils s'adressaient également aux païens, lesquels parlaient l'araméen. Alors, ce message avait été reçu par certains. Bon, ensuite, cette langue a pris fin avec Alexandre le Grand, lequel avait envahi tout le royaume des Perses et des Mèdes jusqu'aux frontières de l'Inde. Et le grec avait été imposé comme langue à tous ces pays conquis. C'est à partir de là qu'on a commencé de parler grec. Et voilà pourquoi la Bible souvent parle des Grecs. Parce que le grec était la langue que Paul parlait, que d'autres parlaient, avait été cette langue internationale qui avait supplanté la langue araméenne. Alors, au travers de Daniel, Dieu avait eu tout un message en araméen au peuple païen d'alors. Et puis, encore quelque chose d'important, toujours à propos de Daniel, du livre de Daniel. L'histoire n'avait pas, pendant longtemps, trouvé trace d'un certain Belshazzar, chapitre 5 de Daniel, celui qui avait vu justement cette main écrire sur la muraille qu'il avait été trouvé léger et auquel avait été justement annoncé qu'il serait battu par les Perses et les Mèdes, que son royaume serait conquis